Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Pendant que le cyclope était sorti, Ulysse et ses compagnons ont préparé un pieu pointu qu'ils ont caché dans la caverne. À son retour, Ulysse l'a enivré de vin et lui a dit qu'il se nomme Personne. Pendant son sommeil, Ulysse et ses compagnons arrivent à crever son œil unique. Polyphème est fou de rage. Cachés sous le ventre des béliers, les hommes d'Ulysse parviennent à sortir de la caverne. Mais lui, Ulysse, reste prisonnier. Il réussit pourtant à s'échapper en s'agrippant à la toison du plus gros des béliers qui sort en dernier. Une fois ces hommes sains et saufs sur leur bateau, Ulysse ne peut s'empêcher de défier le cyclope. Celui-ci, fou de rage, lui jette alors une lourde malédiction. Enfin, la terre promise est là, à deux pas. Les hommes de l'équipage ont eux aussi repéré les fumées qui annoncent le retour sur leur île. Une agitation fébrile s'est emparée d'eux. « Croyez-vous qu'ils sont au courant de nos exploits à la guerre de Troie ?» dit l'un.
« Oh, ils nous pensent sûrement tous morts, » dit un autre.
« Moi, je vais enlacer les genoux de ma mère et de mon père. Je vais leur baiser les mains, s'ils ne sont pas morts, » dit Elpénor.
« Ils nous imaginent peut-être revenir couverts d'or et de richesses, » soupire un costaud.
« Ils vont être déçus. Nous rentrons encore plus pauvres qu'à notre départ. »
« Ce n'est pas vrai pour tout le monde, » dit alors Eurylope,
et il indique d'un geste l'outre qu'Ulysse endormi a déposé à ses pieds. Aussitôt, c'est l'excitation.
« Sais-tu ce qu'Éole lui a offert ?»
Elpénor piaille. « Ulysse nous a bien recommandé de ne pas y toucher. »
Mais personne ne fait attention à lui.
La convoitise et la jalousie enflamment tous les esprits.
« Il nous suffit d'ouvrir cet outre pour en avoir le cœur net. »
Il n'y a aucune raison qu'Ulysse garde toutes ses richesses pour lui.
Et Eurylope joint le geste à la parole. Dès que la ficelle d'argent est défaite, les vents furieux s'échappent de l'outre. Ils repoussent les bateaux loin du rivage, tout proche. Ulysse se réveille en sursaut. Il est épouvanté. Il hurle comme un fou. « Qui a ouvert cette outre ?»
Mais il n'est plus temps d'intervenir. Le mal est fait.
Ulysse voit Ithaque disparaître au loin sans pouvoir réagir. Désespéré, il reste prostré de longues heures sur le pont du navire. Il ne pense même pas à punir ses hommes.
Ceux-ci sont tout aussi anéantis que lui.
Eurylope, qui les a poussés à commettre cette faute dramatique, est mis en quarantaine. Ulysse se promet de le surveiller de très près. Désormais, il ne peut plus avoir confiance en son second. Le jeune Elpénor semble inconsolable. Et il ne cesse de sangloter comme un bébé en répétant « Père, mère !» Ulysse est ému par son chagrin. Il se demande pour la centième fois ce que ce petit être tremblant est venu faire avec lui. Lorsqu'il avait sauté à bord de l'un de ses vaisseaux, Elpénor était à peine plus âgé que Télémaque aujourd'hui. Ulysse avait froncé les sourcils et d'un geste il l'avait renvoyé dans les bras de sa mère. Mais Elpénor l'avait supplié de le garder à bord, en jurant qu'il saurait rendre 1000 services. Et Ulysse avait cédé devant le regard candide du jeune homme. Mal lui en avait pris. À peine parti, Elpénor, sur qui l'on comptait pour donner un coup de main à la préparation des repas, avait été saisi par le mal de mer. La nausée ne le quittait que lorsque le bateau faisait escale. Une fois le campement dressé sous les murailles de Troie, Elpénor s'était révélé le moins courageux de tous. Il tremblait de peur au moindre bruit. La vue d'une blessure ou d'un mort le faisait s'évanouir. Bref, Elpénor n'était pas du tout fait pour la guerre. Les autres l'ont pris très vite comme souffre-douleur. Ils se moquaient de ses traits gracieux de fille, de sa peau délicate et de la rapidité avec laquelle des larmes jaillissaient. Ulysse s'était interposé plusieurs fois, prenant le garçon sous sa protection. Devant les autres, il le protégeait, mais... seul avec lui, il ne pouvait s'empêcher de le bousculer.
« Mais par tous les dieux de l'Olympe, Elpénor, qu'es-tu venu faire avec mes hommes? Pourquoi n'es-tu pas resté avec ta mère et tes jouets ?»
Elpénor baissait la tête et le plus souvent il ne répondait rien.
mais un jour où le garçon s'était montré particulièrement couard en se dissimulant dans un panier de linge pour éviter de partir sur le champ de bataille, Ulysse s'était énervé plus fort que d'habitude. Les femmes qui s'occupaient du camp étaient venues le chercher en riant. Puis elles avaient soulevé devant lui le couvercle du panier et il avait découvert Elpénor dans sa cachette.
« Tu mérites de rester à t'occuper de la cuisine et du linge avec les femmes, puisque tu refuses de te battre. Tu n'es qu'une femmelette !» avait crié Ulysse.
Elpénor, cette fois, avait planté ses yeux dans les siens. Il avait répondu.
« Tu parles comme mon père. Je suis parti avec toi pour prouver à mon père que j'étais un homme, pour ne plus l'entendre me traiter de femmelette. Alors si toi aussi tu le dis, c'est que je ne suis pas capable d'être un homme. Je n'ai de place nulle part. »
L'adolescent avait déplié son grand corps de sauterelle et s'était éloigné à grandes enjambées. À cet instant, Ulysse avait croisé le regard de la vieille Oumariaka. Il était plein de reproches.
« Chacun est comme il est, ne crois-tu pas ?
Peut-être qu'Elpénor n'aura jamais de courage au combat. Mais lui, il ne te trahira pas. On ne peut pas en dire autant de tous tes guerriers. » Ces paroles avaient troublé Ulysse, et elles lui paraissaient aujourd'hui prémonitoires. Ulysse, la gorge nouée, se demandait s'il parviendra un jour à ramener Elpénor auprès des siens.
Les vents furieux ont renvoyé la flotte d'Ulysse exactement d'où elle venait. C'est ainsi qu'ils abordent à nouveau l'île du dieu Éole. Ulysse est soulagé de voir apparaître les falaises couleur de bronze qui lui sont familières. Peut-être que l'erreur de ces hommes pourra être réparée. Il court au palais d'Éole, certain de se faire offrir une nouvelle outre emprisonnant les vents mauvais. Quelle n'est pas sa surprise ? Il est aussi mal accueilli qu'il avait été bien reçu la première fois.
« Fiche-moi le camp, voyou !» lui crie Éole dès qu'il l'aperçoit. « Mais, bredouille Ulysse, ô Dieu Éole, tu ne me reconnais pas ?»«
Oh, si bien sûr que je te reconnais !» s'emporte le dieu des vents. « Mais depuis ton départ, j'ai eu des informations terribles sur toi, étranger. Tu es maudit des dieux !» depuis que tu as rendu un fils de Poséidon aveugle, et je ne m'aviserai pas d'aider un homme qui a attiré sur lui la colère des dieux. Quitte mon île de ce pas !»
Pas un souffle de vent. 6 jours de suite, les marins se relaient en silence pour ramer sous un soleil de plomb, pour faire avancer la flotte. Ulysse garde un visage fermé. Il a cessé d'appeler son équipage « mes enfants ». Il les regarde durement.
Tout ce temps perdu, quel gâchis!
À l'aube du 7e jour de mer, ils aperçoivent une île inconnue. 2 hautes falaises encadrent un passage étroit dans lequel les navires doivent manœuvrer habilement pour se faufiler jusqu'au port. Ulysse crie au capitaine des autres bateaux de ne pas s'approcher, mais ils lui répondent « La mer est calme, nous ne risquons rien ». Et sans plus attendre, ils s'engagent tous à la queue leu-leu dans l'étroit défilé. Seul Ulysse préfère amarrer son bateau rouge à l'entrée du passage. Il pressent que cette île, malgré sa beauté, n'est pas sans danger. Prudents depuis leur récente mésaventure, ils se contentent d'envoyer 3 hommes en reconnaissance. 1 heure passe, puis 2. Au moment où Ulysse, très inquiet, s'apprête à partir à leur recherche, il voit revenir 2 de ses marins hurlant comme des fous. La terreur se lit sur leur visage. Ils pleurent, ils parlent en même temps, si bien qu'il est très difficile de comprendre leur récit. Ulysse finit par apprendre ce qui vient de se produire. Au bord d'une fontaine, les 3 hommes ont croisé une femme très grande qui s'est présentée comme la fille du roi de l'île. Elle leur a proposé aimablement de les conduire auprès de son père. Mis en confiance, les hommes ont accepté. « On aurait dû se méfier, » sanglote l'un d'eux. Elle était grande, beaucoup trop grande pour une enfant. À peine introduit au palais, il voit arriver le roi et la reine, un homme et une femme hauts comme des montagnes. Ils se trouvent chez des géants, les Lestrigons. Le roi attrape aussitôt l'un d'entre eux et l'avale. Les 2 autres s'enfuient en courant. Mais le roi a alerté tout son peuple par ses cris. Des milliers de Lestrigons courent à leurs trousses. Ulysse n'a que le temps de couper avec son épée la corde qui retient son bateau à la rive et ses rameurs l'éloignent de la côte à toute allure.
Oh, quel déluge de pierres soudain! Une pluie de rochers s'abat dans le défilé où les 11 bateaux d'Ulysse sont engagés. Les Lestrigons ont gagné le sommet des falaises en 2 enjambées de géants. Ils ont saisi de gros blocs de granit, ils les lancent dans le vide. Tout en bas, c'est l'affolement général. Certains rochers atteignent les bateaux, brisent leurs coques en morceaux. D'autres manquent leur cible, mais s'enfoncent dans la mer en projetant des vagues qui engloutissent les bateaux tel un raz de marée. Les marins ne peuvent rien faire pour sortir de ce piège. Ceux qui ne sont pas tués nets par les projectiles se noient aussitôt. Les rares marins qui savent nager sont pêchés aussitôt par les Lestrigons comme de vulgaires poissons et ils finissent dévorés. Sur le bateau d'Ulysse, le seul à être prudemment resté en dehors du défilé, les marins rament avec énergie. La peur décuple leur force. Ulysse hurle des encouragements pour qu'ils accélèrent encore et encore la cadence. Car les Lestrigons visent loin. Et par 2 fois, les rochers frôlent la coque du bateau. « Vous êtes des héros de la guerre de Troie! Vous n'allez pas bêtement mourir écrasés par des pierres comme de minables asticots !» hurle Ulysse. Alors les hommes appuient de toute leur force sur les rames. Ils arrivent à redresser le bateau, à l'empêcher d'être aspiré par les tourbillons d'eau. Bientôt, ils sont hors de portée. Les appels à l'aide de leurs compagnons leur parviennent encore, mais il est trop tard. En quelques minutes, sous cette grêle de rochers, les 11 autres bateaux de la flotte ont été détruits. Le roi d'Ithaque n'a plus qu'un seul navire et quelques hommes à ramener sains et saufs chez eux. Elpénor en fait heureusement partie, ainsi que Riloc, le second d'Ulysse. Les jours et les nuits en mer se succèdent. Le bateau erre sur l'océan sans véritable direction. Longtemps après avoir perdu de vue la sinistre île des Lestrigons, il approche d'une nouvelle île. Ulysse aurait bien aimé l'éviter, mais il devient urgent de se ravitailler en eau et en vivres. Il décide donc d'aborder ce nouveau rivage avec beaucoup d'appréhension. Quel nouveau coup du sort les attend ici ? Depuis 2 jours et 2 nuits, le bateau d'Ulysse a jeté l'ancre dans la crique abritée d'une île inconnue. Pendant que ses compagnons dorment, Ulysse décide de partir seul à l'aventure. Une montagne, assez haute, domine toute l'île. Il la gravit d'un bon pas, heureux de faire jouer les muscles de ses jambes. La végétation dense et verdoyante ne ralentit pas son ascension. Lorsqu'il atteint le sommet, il n'a toujours croisé aucune trace de vie humaine. Comme si cette île, surgie de nulle part aux confins du monde, était inconnue des hommes. De là-haut, son regard embrasse toute la surface de l'île. Pas une cité, pas une trace de labour, de pâturage. Il n'y a personne ici, personne de la race des mangeurs de pain. C'est alors qu'Ulysse aperçoit une fumée qui s'élève haut et droit dans le ciel pur du matin. Il sourit. Il est heureux de ne pas être arrivé sur une île déserte. Mais alors qu'il s'apprête à suivre le mouvement de son cœur en courant demander l'hospitalité auprès de ce foyer, le souvenir des épisodes douloureux qu'il vient de traverser le retient. La prudence l'emporte. Il rebrousse chemin et va prévenir ses compagnons. En route, voici qu'un cerf majestueux, doté de bois immenses, lui barre le passage. L'instinct de chasseur d'Ulysse ressurgit aussitôt. Le cerf se dirige vers une rivière pour se désaltérer. Ulysse saisit son javelot et lui transperce le flanc. L'animal s'écroule et Ulysse n'a plus qu'à couper quelques solides roseaux pour ligoter la bête et la ramener triomphalement à ses hommes. Ulysse n'a pas vu 2 ombres l'observer, derrière un grand chêne. C'est un dieu et une déesse qui se dissimulent pourtant à peine. « Enfin, je le retrouve tel qu'il est !» s'écrie la déesse. « Ulysse n'est pas un vrai marin, c'est un homme de la terre et des forêts. »«
Tu as raison, ma sœur, » répond le petit dieu, « mais je crains bien que sur cette île enchantée, ton homme des bois ait besoin de notre aide pour s'en sortir. »«
Suivons-le de près, » dit-elle. Et aussitôt, elle disparaît. À sa place, une chouette volette doucement. L'oiseau se retourne et semble attendre.
Mais le petit dieu n'a pas l'air vraiment pressé de la suivre.
Il est allongé sur un tapis de feuilles. Il a ôté ses chaussures et son casque, auxquels deux petites ailes sont attachées.
Il bâille longuement. « Je vais l'attendre par ici, moi, » décide-t-il. « Je pense pouvoir lui être utile un peu plus tard. »
Et il s'endort, tandis que la chouette s'envole pour suivre Ulysse au loin.
Oh, quelle fête sur le bateau! Cela fait bien longtemps que l'on n'a pas chanté et festoyé de bon cœur. Le cerf d'Ulysse sert de festin à ses hommes, et il dissipe pour un temps leur tristesse. Même Elpénor ose faire le pitre en se coiffant des longs bois de l'animal et tout le monde s'amuse. Bientôt, Ulysse propose que la moitié des hommes partent en reconnaissance du côté d'où provient la fumée. Il place 22 membres de l'équipage sous la responsabilité d'Eurylocke et 22 autres sous la sienne. Elpénor, plonge ta main innocente dans mon casque et dis-nous quel groupe partira en éclaireur, demande Ulysse. Le sort désigne l'équipe d'Eurylocke, à la grande déception d'Ulysse qui, oubliant totalement les dramatiques aventures des escales précédentes, brûle à nouveau de curiosité. Qui peut bien vivre ici? Les hommes, eux, n'ont pas oublié le funeste sort de leurs amis, et ils partent en reconnaissance avec angoisse. Après avoir marché quelques heures à travers bois, ils arrivent dans une clairière. Au centre se dresse une belle demeure de pierre blanche. La cheminée fume. Les hommes de Eurylocke avancent, mais ils sont aussitôt encerclés par des loups et des lions des montagnes.
« Notre dernière heure est arrivée, » murmure l'un. « Ils vont se jeter sur nous, ils vont nous dévorer, » dit un autre en tremblant.
« Restez serrés, les uns contre les autres, » ordonne Eurylocke. Les bêtes féroces s'approchent. Juchée au sommet d'une branche, une chouette observe la scène. Le petit dieu ailé vient se poser à ses côtés.
« Tu t'es réveillé de ta sieste, Hermès ?» dit la chouette.
« Ah, je ne voulais pas manquer ça !» rigole Hermès.
Les hommes gémissent. Les lions et les loups continuent de s'approcher d'eux, mais ils ne sont absolument pas menaçants.
Non, mieux, ils remuent joyeusement la queue, comme le feraient de bons chiens ou de gros chats saluant l'arrivée de leur maître.
Bientôt, les fauves se frottent contre leurs jambes, glissent la tête sous leurs mains, quémandant des caresses. Personne n'en croit ses yeux. C'est alors que les compagnons d'Ulysse aperçoivent sur le seuil de la maison une femme, assise en train de tisser. Des boucles dorées encadrent un visage pointu, aux yeux en amande. Un diadème retient sa chevelure, de discrets bracelets ornent ses poignets. Cette femme d'une grande beauté leur adresse un sourire. De la main, elle fait signe aux animaux de s'écarter pour libérer le passage. Lions et loups lui obéissent aussitôt. De son autre main, elle invite les étrangers à entrer dans sa demeure. Tous se précipitent et acceptent de s'asseoir sur des coussins moelleux qu'elle leur propose. Tous, sauf un, Eurylocke. Soupçonneux, il préfère rester à l'extérieur et observer par la fenêtre ce qu'il se passe. « Une femme qui transforme des fauves en agneaux ne me dit rien qui vaille, » marmonne-t-il. Eurylocke aurait-il raison de se méfier ?